chers amis, nous allons lire ensemble, en commençant cette fois-ci par le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux croyants de Colossiens, chapitre 3, les versets 16 à 19. Colossiens 3, 16 à 19. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous ou avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse point contre elle. Deuxième passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Quelques extraits en relation avec notre sujet, le verset 3. 1 Corinthiens 11, 3, une première affirmation forte. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Versets 8 et 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Versets 11 et 12, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et puis enfin, nous avons rendez-vous avec le Cantique des Cantiques, à nouveau, au chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, dont nous lisons les versets 8 à 17. 2, 8 à 17. C'est donc la Sulamite qui parle et qui s'exclame, c'est la voix de mon bien-aimé. Et voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici. Il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps chanté est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. Depuis hier matin, nous sommes arrêtés sur le thème « Vivre notre vie conjugale dans la lumière ». Et bien sûr, je l'ai dit, je le répète, cela ne s'arrête pas à la vie conjugale. Et en tout cas, pour le couple, c'est par là que cela doit commencer. Alors nous avons évoqué tous les mensonges, il y en a d'autres possibles, qui sont parfois même liés à des attitudes cultivées dans l'éducation, avant le mariage, dans l'optique du mariage. Et en terminant hier matin, nous annoncions ce thème qui est toujours la vie dans la lumière et qui consiste à refuser de dresser des murs dans notre relation de couple et céder le premier pour céder, S'AIDER. Et nous entrons d'ailleurs dans un domaine qui va aussi nous intéresser par bien des aspects d'ici samedi matin, que j'ai pas mal développé dans mon livre concernant Barnabas. C'est le problème de la communication. Il est important. Communication dans le couple. Et c'est de la qualité de notre communication, et ça va avec la vie dans la lumière, que dépend la qualité de notre vie de couple pour que le mariage soit plutôt un duo qu'un duel. J'ai beaucoup apprécié la tablette de chocolat avec ce petit mot duo. Je n'aurais pas aimé une tablette de chocolat duel. Hein. Vous avez remarqué, c'est pour cela que j'ai terminé par là, le contenu délicieux de cette partie du chapitre 2 du Cantique des Cantiques, qui évoque une démarche de communication. Je m'invite à une belle communication. La voix du bien-aimé qui invite son amie, sa belle. Viens, l'hiver est passé. Il y a là des textes qui sont extraordinaires. Et puis, subitement, alors qu'on se régale de cette qualité de communication d'amour de la part du bien-aimé à l'endroit de la Sulamite, il y a une cassure dans le texte. Quelque chose qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous avez remarqué, ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs. Voilà un bien-aimé qui sait que la communication est vite attaquée, vite en souffrance, et qu'il y a une multitude de petits renards à l'affût pour briser nos relations, pour dresser des murs, pour ronger le tissu de l'amour conjugal, de la confiance réciproque, de la sainteté à l'intérieur du couple. Des petits renards qui ravagent les vignes. C'est intéressant d'ailleurs parce que aussitôt ce petit flash
prononcée, il y a à nouveau une parole clé du Cantique des Cantiques. Hein. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Et là, dans cette première partie du Cantique des Cantiques, la Sulamite est encore dans sa relation avec le bien-aimé, plus centrée sur elle que sur lui. Remarquez ce qu'elle dit, hein. Mon bien-aimé est à moi. Un peu un sens de possession, hein. Mais il va y avoir une évolution qui doit justement se développer dans la qualité de communication et de relation à l'intérieur du couple, puisque au chapitre 6 réapparaît ce verset clé au verset 3. Et là, il y a un changement. Je suis à mon bien-aimé. Vous voyez, une nouvelle orientation, un amour qui s'est approfondi, qui a grandi en qualité. Je suis à mon bien-aimé. Il y a des problèmes de petits renards qui ont dû être réglés à quelque part. Hein. Et mon bien-aimé est à moi. Et comme si la démarche était encore insuffisante, il y a une troisième étape qui figure au chapitre 7 et au verset 11, où vraiment le centrage est encore plus fort sur le bien-aimé. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Vous voyez cette progression extraordinaire dans l'intimité, dans la relation d'amour entre la Sulamite et son bien-aimé. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, les petits renards. Vous savez, pour pouvoir s'occuper des petits renards, il faut d'abord s'attaquer aux gros. Et j'aimerais que nous commencions dans la logique biblique par nous attaquer à un gros renard qui sent très mauvais. Je veux parler du problème lié à la notion d'autorité et de soumission dans la vie conjugale. Parce que beaucoup de petits renards ont un chef dans les problèmes du couple, un gros renard. Beaucoup de problèmes ne se résolvent pas à l'intérieur du couple à cause des mauvaises conceptions de l'autorité et de la soumission. La malédiction de la chute nous poursuit, hélas, encore parfois dans nos vies de disciples de Jésus-Christ. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment attentifs au contenu biblique des mots clés, notamment ceux concernant la vie conjugale. Et il y a, dans le domaine de la soumission ou de la subordination, les commentateurs et les théologiens se querellent sur l'usage des mots en la matière. Peu importe, essayons de voir ensemble, mais que d'incompréhension sur cette question. Elle pourrait nous occuper jusqu'à samedi, je vous donnerai des pistes, certaines réflexions plus approfondies, mais tout cela méritera d'être creusé encore. Mais nous allons essayer de dynamiter quelques fausses conceptions tenaces dans nos vies. Un couple tout juste marié était en voyage de noces à bord d'une calèche tirée par un cheval. Le temps était magnifique, les jeunes époux étaient très heureux, mais voilà, petit renard à un endroit, le cheval trébuche. Puis il se rétablit, mais le jeune marié fronce les sourcils et prononce ces deux mots d'une voix tout à fait neutre, une fois. Un peu plus tard, le cheval trébuche à nouveau sur une pierre, s'arrête. Il faut descendre, vérifier les bagages. On remonte en calèche. Et regardant son cheval, le jeune époux de lancer deux fois. Alors ils avancent sur un chemin de plus en plus mauvais. Il arrive un moment où l'homme descend, s'approche de l'animal qui a encore trébuché, et il dit de sa voix neutre, trois fois. Et il sort un revolver de sa poche et il abat l'animal. Petit renard, son épouse entre dans une colère terrible. Elle lui reproche d'avoir tué le cheval pour une raison aussi bénigne, de les avoir privés de leurs moyens de locomotion, d'être cruel, etc. Le jeune marié, impassible, regarde sa femme et sur un ton très calme, lui dit « Une fois ». Conception de l'autorité et de la soumission. L'autorité n'est pas écrasement de la personnalité de l'épouse. Faut-il le dire ? Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Le mari a autorité sur le corps de son épouse, c'est vrai, mais l'épouse a autorité sur le corps de son mari. Les deux côtés. Et hélas, au nom d'une autorité non biblique et d'une exagération manifeste quant à la soumission de la femme, que d'hommes, nous l'avons sous-entendu, pensent que seuls ont autorité sur le corps de la femme. Tout simplement parce qu'il est dit dans les Écritures, épouse, soyez soumise. Autre exemple. Dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 4, concernant le caractère et le cahier des charges de l'ancien, il est dit au verset 4, il faut que l'ancien dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ? Donc, de manière claire, il est dit ici, même à deux reprises, que l'ancien, donc l'homme, le mari, l'époux, le père, dirige sa propre maison. Ceci est répété au verset 12 concernant les diacres qui doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. D'accord ? Le problème, c'est qu'au chapitre 5 et au verset 14 concernant les jeunes femmes et dans le contexte même les jeunes veuves appelées dans la mesure du possible à se remarier, je veux donc, verset 14, que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, qu'elles dirigent leur maison. Et si dans le même livre, dans le même contexte. Ça n'appartient pas à deux cultures différentes, puisque on parle tant dans un néo-évangélisme de l'importance extraordinaire de tenir compte des contextes culturels, mais au point qu'on invente tout et n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà donc deux ou trois textes dans le même contexte, à deux chapitres d'intervalle, où il est question de direction d'un côté pour le mari, de l'autre pour la femme. Et là, nous touchons du doigt un problème de traduction, où des différences n'apparaissent pas toujours, nous l'avons remarqué tout au long de cette semaine, dans le texte français. Là où ces différences apparaissent dans le texte original. Je ne veux pas dire, et je voudrais quand même le dire en approchant la fin de cette série, qu'il est obligatoire de faire du grec, de l'hébreu et je ne sais quelle autre langue pour comprendre les Écritures. Nous pourrions très bien emprunter un autre cheminement qui n'est pas du tout de relation avec la question linguistique pour aboutir au même résultat. Bon, si nous pouvons le faire en utilisant les questions linguistiques, faisons-le. C'est un des rôles de l'enseignement, n'est-ce pas ? Mais nous pourrions nous en passer. Je le dis pour que personne ne pense que la bonne connaissance des Écritures et donc aussi notre relation avec Dieu est déterminée par notre niveau d'instruction. Je suis désolé, c'est pas vrai. Et il faut que nous cessions de croire aujourd'hui que la Bible est le livre des spécialistes qui détiennent toutes les clés de la connaissance, et puis il faut passer absolument par eux, comme au premier siècle, il fallait passer par les scribes pour pouvoir interpréter les Écritures et les rabbins. Ce n'est pas vrai. Mais il est évident que parfois, la connaissance linguistique peut aider, c'est le rôle de l'enseignement. Et ici, il y a une différence qui mérite d'être mieux mise en évidence et qui l'est dans certaines versions. Parce que le verbe diriger, qui figure au chapitre 3, n'est pas le même verbe dans le texte grec qui figure au chapitre 5, tout simplement. Et en réalité, nous devrions traduire au chapitre 3, dans les trois versets où le verbe diriger figure, présider. Présider. Parce que c'est littéralement un verbe qui signifie quelqu'un qui est devant. Quelqu'un qui se tient devant. Quelqu'un qui préside. Qui gouverne. Qui administre. Qui est à la tête dans ce sens qu'il est, pardon de le dire ainsi, le président directeur général. Quelqu'un qui a d'une manière toute particulière une vue d'ensemble. Qui va veiller à donner des orientations, qui va être d'une manière toute particulière aussi sacrificateur dans son foyer, mais qui ne va pas pour autant s'immiscer en tout et considérer qu'il est le maître absolu dans la cuisine de madame, au point de lui dicter du matin au soir et du soir au matin ce qu'elle doit cuisiner, ce qu'elle ne doit pas cuisiner, combien de sel elle doit mettre, combien de sucre, etc. Parce qu'hélas, il est des abus d'autorité qui se traduisent par ce genre d'attitude. Et c'est pour cela que figure dans les Écritures ce chapitre 5, verset 14, qu'elle dirige. Et c'est un terme fort, bon, qui ensuite, dans l'histoire de la langue, a pris un autre sens, puisque c'est un mot composé ici de deux parties, la partie loikia, la maison, même dans le sens le plus large du terme, au-delà du petit foyer tel que nous le concevons en Europe, c'est le foyer avec tout ce qu'il signifie, même au niveau de la parenté, etc., y compris le personnel, à l'époque ceux qui étaient les domestiques, etc., etc., n'est-ce pas ? Et puis le verbe de la famille du mot despote. Elle est despote sur la totalité de son foyer. Bon, le mot n'avait pas le sens qu'il a pris depuis. Mais en fait, elle est directrice. Et il faut que le mari le reconnaisse. Il est PDG, mais elle est Premier ministre. Et en tant que Premier ministre, elle a vraiment de l'autorité. Et son mari doit lui reconnaître aussi cette autorité. Elle va jouer un rôle énorme, non seulement comme Premier ministre, mais ministre de l'Intérieur, souvent ministre de l'Éducation nationale, parce que si papa est la majeure partie du temps loin, c'est souvent maman, quand elle joue son rôle auprès des enfants, qui va les suivre de près concernant leur scolarité, beaucoup plus que le papa. Et nous pourrions ainsi continuer dans le domaine des finances, ministre des finances. Je me souviens du jour où nous avons discuté, ma femme et moi, et ma femme a dit, écoute chérie, tu sais, c'est quand même moi qui vais dans les magasins. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux que je suive ça de très près et donc que je m'occupe de la gestion financière? Bien sûr, on regardera ensemble. On aura de temps en temps des réunions tous les deux ensemble pour faire le point, pour les orientations, etc. Tout à fait d'accord, mais est-ce que tu ne penses pas que... Oui, chérie, tu seras le ministre des Finances. Et de temps en temps, oui, on fera le point pour voir où on en est, pour les grandes orientations, etc. Ça fonctionne mieux comme ça. L'un dirige, l'autre est devant et préside. Et il y a ainsi aussi une magnifique complémentarité. Voilà, donc, un second aspect où on a un peu tendance à lire ou à donner aux Écritures la couleur qui nous arrange. Hein. Non, nous devons être honnêtes dans notre lecture des Écritures, même si ça nous fait mal à quelque part. À cause de nos habitudes, à cause de notre passé, à cause de notre éducation, à cause peut-être de la religion dans laquelle nous avons vécu, parce que là encore, nous avons entendu beaucoup de choses sur le catholicisme hier soir, mais les régions du monde dans lesquelles le catholicisme a été très fort, hélas, ont joué sur la vision du couple. Nous l'avons vu en ce qui concerne le corps et la sexualité, mais sur la vision du couple et de l'autorité, on jouait aussi un rôle énorme. Et nous traînons dans nos pays, à forte éducation et hérédité viscéralement catholique, nous traînons des idées fausses en quantité dans le domaine du couple. Et c'est pour cela qu'il nous faut relire ensemble les Écritures à ce sujet. Troisième exemple, Genèse. Chapitre 3, versets 14 et suivants. Cette cascade de malédictions en chaîne, de la part de Dieu, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Rejeté, c'est un terme très très particulier. C'est un terme violent même, abhorré. Entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Et moi je suis frappé par la sympathie qu'on a de plus en plus dans le monde pour le serpent aujourd'hui. Quelque chose qui parle là. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ha ! Voilà de quoi alimenter l'autorité de ces hommes dont je fais partie. Et hélas, tirant habilement du contexte cette affirmation, il dominera sur toi, même des croyants évangéliques de sexe masculin disent, mais c'est normal. Je suis dans mon rôle d'autorité lorsque je domine sur ma femme.
C'est pas vrai. Ça, c'est un effet de la chute. C'est une malédiction, mais que je sache, est-ce que Christ n'est pas venu pour régler d'une manière toute particulière ce problème de malédiction? Est-ce que Christ n'est pas venu pour rétablir une juste attitude du mari à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard de son mari? Voilà donc encore un texte qui souvent a été exploité de manière totalement abusive, lorsqu'on a refusé de voir dans cette domination un mal, une conséquence du péché et non un ordre de Dieu. Et dans le fond, vous le remarquez, plus nous nous éloignons de Dieu dans notre société post-chrétienne, plus cette domination-là, avec ses abus, notamment en matière de sexualité qui font de la femme quelque chose d'odieux, plus cela se manifeste. Mais plus Christ pénètre une vie, plus ces choses changent, dans la mesure où règne une obéissance aux Écritures dans la vie du couple. Autre exemple que nous avons lu à plusieurs reprises dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 23. Encore un de ces petits mots qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a subi ces dernières années des manipulations de la part de théologiens voulant absolument prôner le ministère pastoral féminin. Le mari est le chef de la femme. Ah, qu'est-ce qu'on bricole avec ce mot? Alors, il est la source de la femme. On en raconte toutes les choses. Sans absolument vouloir tenir compte de tout le contexte, de tout ce qui est dit par ailleurs à ce sujet. Non, le Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, le chef, céphalée. Et certains d'entre vous savent très bien ce que c'est que les céphalées. La tête. La tête. Et c'est intéressant. La parole de Dieu est inspirée non seulement dans ses idées, mais dans ses mots. Bien entendu, dans la mesure où il figure dans les textes dits originaux. Alors ici, Dieu a choisi un mot particulier, je l'ai dit, qui se traduit par chef, mais aussi par tête. Alors qu'il aurait pu utiliser un autre mot, qui figure par exemple, et je ne prends qu'un exemple, dans Marc chapitre 10 et au verset 42, Marc 10 verset 42, lorsque Jésus appelle ses disciples qui s'indignent contre Jacques et Jean, à cause d'une démarche de Jacques et Jean liée à leur incompréhension des événements à venir, notamment. Et Jésus dit, vous savez, verset 42, hein, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands dominent. Il n'en est pas de même en milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. Ce n'est pas le même terme. Nous avons ici un terme grec qui est utilisé en français dans le mot monarchie, le monarque archone, qui n'a pas du tout le même sens.
qui appartient précisément, je dirais, à la mentalité de ceux qui commandent dans le monde, et qui très vite outrepasse l'autorité qui leur est déléguée par Dieu, qui abuse de leur pouvoir et qui deviennent des tyrans. Et ça, c'est, je dirais, un mécanisme de péché qui est dans le cœur de chaque homme. Nous avons énormément de peine à gérer l'autorité qui nous est déléguée. Et on le sait dans l'église locale, il est si facile de passer de l'autorité à l'autoritarisme, au despotisme dans le sens moderne du terme, etc., n'est-ce pas ? Mais Dieu a pris soin de faire une distinction, non pas les chefs de ce monde. Marie, vous êtes tête. Et vous savez que quand une tête, c'est-à-dire un cerveau, commence à mal fonctionner, il devient en quelque sorte, je le dis comme ça, hein, ce n'est pas scientifique, c'est une figure, mais elle a valeur. Il commence à devenir irrespectueux du corps, à maltraiter le corps se désorganise, le corps souffre parce que là-haut, quelque chose se détraque. Donc, tout en étant lieu de commande de l'individu, le cerveau a un intérêt à fonctionner aussi bien que possible pour ne pas maltraiter le corps tout entier. Et nous pourrions ainsi continuer à accumuler passage après passage. Il y a des hommes qui pensent qu'ils ont autorité sur toutes les femmes. Eh oui. Et ils se conduisent avec un machisme très désagréable chaque fois qu'une femme croise leur chemin, au nom de l'autorité et de la soumission, dans l'Église de Jésus-Christ. Or, les textes sont clairs. C'est le mari qui est le chef de sa femme. Nous l'avons lu dans Colossiens aussi. C'est dans Éphésiens, c'est dans d'autres textes. Chacun a autorité par délégation et il devra en rendre compte sur sa propre femme. Ceci est tout de même important, n'est-ce pas, dans la vie conjugale. Et cela m'amène à dire ceci, c'est que la logique de Dieu dans les Écritures veut que ce soit les responsabilités et non les droits du mari qui soient au premier plan. Lisez Éphésiens 5. Il n'est pas question des droits du mari. Il n'est donc pas dit, par exemple, Marie, tu peux dire à ta femme, femme, sois soumise. Dieu s'adresse directement à la femme et Dieu s'adresse directement au mari. Et quand Dieu dit, femme, soyez soumise et mari, aimez, ensuite l'insistance de Dieu n'est pas sur les droits du mari ayant une autorité déléguée, mais sur ses responsabilités. Et ça fait toute la différence. Je suis un mari responsable. L'emphase est donc mise sur la responsabilité, ce qui veut dire que la soumission ne s'exige pas, elle se gagne par l'amour, et si l'époux est lui-même soumise à Christ, ce sera une aide extraordinaire pour l'épouse. Et l'époux va se souvenir qu'il a besoin du secours de sa femme. Parce qu'il est incomplet. Et c'est pourquoi je lève un autre lièvre et un dernier dans ce domaine du gros renard, à savoir Genèse 2.18 lu à diverses reprises, mais chaque fois avec d'autres éléments d'explication, mais en voici encore une qui n'est pas sans importance, Genèse 2.18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul ou isolé, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors quand on a envie d'abuser de son autorité, on va mettre l'emphase, on va insister sur le mot aide. Chérie, tu es mon aide. Sous-entendu, mon marchepied. Ouais. Ma panosse, comme on dit dans certaines régions de Suisse. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça. Il est intéressant de constater que ce mot aide dans le texte hébreu, lorsqu'il s'agit d'une personne, il est présent une vingtaine de fois, je crois 21 même dans l'Ancien Testament. Et il n'est employé dans l'Ancien Testament que pour Dieu. Sauf dans les deux passages de Genèse 2, 18 et 20. Où il est question de la femme aide de l'homme. Tous les autres passages où il est question d'une personne vont dans la direction de Dieu aide de l'homme. Alors, Dieu marche-pied, Dieu panace, hein? Bonjour les dégâts. Et j'aime ce commentaire si beau où l'auteur, après avoir évoqué quelques passages de l'Ancien Testament, dans lequel ce mot est utilisé, Dieu aide de l'homme, il le délivre, Exode 18.4, il rend ses mains puissantes contre ses ennemis, Deutéronome 33.7, il le sauve, versets 27-29, il le protège comme un bouclier, psaume 33.20. L'auteur ajoute, Dieu est notre aide en ce qu'il nous inspire, il nous conseille, il nous forme en corrigeant nos vues, en épanouissant tous les aspects de notre personnalité. La femme peut être notre aide de cette manière. Elle a été donnée à l'homme non comme adjointe, subordonnée, qui nous complète, en ajoutant son grain de sel comme petit supplément, mais comme notre vis-à-vis, nous l'avons vu ceci. Donc sur le même niveau, notre partenaire à part égale, qui nous soit semblable tout en étant différente, elle peut être aide et vis-à-vis dans tous les domaines de notre vie et de notre ministère. Et ce qui est quand même curieux et intéressant, comme si Dieu voulait enfoncer le clou pour que l'homme masculin comprenne bien cela et que la femme comprenne aussi sa vocation, c'est que dans l'Ancien Testament, il existe quatre autres mots hébreux qui peuvent être traduits par « aide » dans notre langue, et tous les quatre ont une dimension de subordination. C'est-à-dire que Dieu a choisi pour Genèse 2, 18 et 22 le mot tout à fait hors de la pensée première, si vous voulez, de la subordination. Elle y est parce qu'elle figure dans tous les textes des Écritures, mais dans le terme technique lui-même, puisque ce mot est utilisé uniquement pour Dieu, le sens est différent. Et en quelque sorte, c'est un côté magnifique de la vocation féminine dans sa subordination aux côtés de l'homme. Et là, j'aimerais quand même, parce que ça nous intéressera, souligner combien ce que nous voyons a été tout au long de l'histoire révolutionnaire
par rapport à toutes les conceptions généralement admises sur la valeur de la femme, par exemple. Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, 3 choses sont à craindre par-dessus tout. Le feu, l'eau et une femme. Platon, 5e siècle, qui plaint l'homme qui doit se réincarner dans le corps d'une femme. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, les femmes sont des hommes imparfaits dans la généalogie des animaux. Et toutes sont sans valeur. Elles n'ont été créées que pour la commodité des hommes. Un homme d'État romain, Caton, l'Ancien, 2e siècle avant Jésus-Christ, dès que les femmes commenceront à être vos égales, elles deviendront vos supérieures. Au 1er siècle, philosophe stoïcien Sénèque, une femme et l'ignorance sont les deux plus grandes catastrophes dans le monde. Et on continue, Pline, dans son Histoire naturelle en 37 volumes, dans les années 80 de notre ère, la femme menstruée gâte les moissons, dévaste les jardins, tue les germes, fait tomber les fruits, tue les abeilles et fait aigrir le lait si elle le touche. Je parlais récemment de Tertullien en vous disant que j'aimais certaines choses, j'en aimais moins d'autres. En voilà une que j'aime moins. Femme, tu es la porte du diable. Tu as persuadé celui-ci que le diable, celui que le diable n'osait attaquer en face. C'est à cause de toi que le Fils de Dieu a dû mourir. Tu devrais t'en aller vêtu de deuil et de haillons. Jean Chrysostome, bouche d'or, cet avocat devenu prédicateur éloquent, je crois 4e siècle si je me souviens bien, et qui lisait l'épître aux Romains au moins une fois ou deux fois par semaine, et qui pourtant disait des bêtises grosses comme des maisons. Hein. Toutes les bêtes sauvages, en toutes les bêtes sauvages, il ne s'en trouve pas de plus nuisante que la femme. L'homme est fait pour les grandes choses et la femme pour les petites. Le Talmud, commentaire et extension des textes bibliques et de la tradition juive. Celui qui enseigne la loi à sa femme est aussi coupable que s'il lui enseignait à pécher. Prière quotidienne du juif pieux, datant de 100 après Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, parce que tu ne m'as pas fait naître femme. Béni soit Dieu, parce qu'il n'a pas fait de moi un païen, une femme ou un ignorant. Quelques bribes au passage. Mais ne jetons pas trop la pierre au passé. Hein. Alors j'aime ce qu'a écrit saint Augustin ou Augustin d'Hippone. Si Dieu avait voulu que la femme domine sur l'homme, il l'aurait tirée de la tête d'Adam. S'il avait voulu qu'elle soit l'esclave de l'homme, il l'aurait tirée de ses pieds. Mais Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, parce qu'il voulait qu'elle soit sa compagne et son égale. Et c'est sur ce texte que le célèbre commentateur Matthew Henry dira ceci: Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté, pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège, et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Mais il y a une interprétation rabbinique à ces rabbins, plutôt misogyne, de ce texte de Genèse 2:18 et suivant. Écoutez ça. Voilà comment les rabbins ont interprété le texte. Dieu parle. D'où vais-je la former ? Oh, non pas de la tête, pour qu'elle ne se dresse pas fièrement, ni des yeux pour qu'elle ne soit pas exagérément curieuse, ni des oreilles, elle risquerait d'être indiscrète, ni de la nuque, cela favoriserait son orgueil. Et les rabbins continuent, la série est immense, toute la morphologie de la femme passe en revue. Et finalement, ou de l'homme, puisque la femme n'est pas encore là, et finalement, la côte est choisie pour rendre la femme plus modeste. Et les rabbins de conclure, mais les défauts apparaîtront quand même. Alors, j'aurais aimé, mais nous ne le ferons pas, traiter très longuement de toutes les raisons de la soumission de la femme, raisons d'ordre créationnel, attachées à la création, ceci est dit à plusieurs reprises dans les Écritures, et puis de l'ordre de la rédemption. Vous avez des textes, je vous les cite, concernant donc le fondement de la soumission de l'épouse à son mari, mais je ne vais pas les commenter parce que j'aimerais que nous avancions. Nous en avons lu un tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, 3, 8 et 9, où il nous a dit clairement que la soumission de l'épouse s'appuie sur la création. La femme a été créée après l'homme, tirée de l'homme et faite pour l'homme. C'est comme ça, c'est écrit dans les Écritures, je m'appuie sur elle simplement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les versets 11 et 12 que nous avons lus précisent que l'homme naissant de la femme, tous deux sont dépendants l'un de l'autre. C'est intéressant, il y a un souci d'équilibre dans ce texte d'1 Corinthiens 11. Nous aurions pu prendre le texte d'1 Timothée 2, 11, 13, qui donne comme raison de la soumission, ordre créationnel, une fois de plus, ce que nous venons de voir, l'homme ayant été créé avant la femme, etc. Et puis, au verset 14 d'1 Timothée 2, il est question de la femme qui a succombé à la séduction du serpent. Et puis, nous avons le texte d'Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, auquel nous avons souvent fait allusion, concernant l'ordre de Dieu, vous le remarquez, Dieu est le chef de Christ. Christ est soumis au Père. Et il nous est même dit dans 1 Corinthiens 15, 25 à 28 que quand tout aura été soumis à Christ, Christ, dans l'éternité future, sera soumis au Père. Dans son égalité parfaite d'essence avec le Père, pourtant, il tient sa place de subordination, même dans la gloire. Et cela, je dirais, devrait être un encouragement extraordinaire pour la femme dans sa relation avec son mari. Si le fils, dans son égalité d'essence, participant en plénitude à la création, au maintien de l'univers du cosmos, seul et unique rédempteur de l'humanité, si lui, volontairement par amour, accepte cette subordination, quel exemple pour les rapports de la femme avec son mari. Christ est le chef de tout homme, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 11. L'homme masculin donc doit se soumettre à Christ. Et c'est ce qui va énormément influencer son comportement envers son épouse. Si je suis soumise à Christ, bien entendu, je ne vais pas vouloir abuser de mon autorité. Et je verrai mon autorité dans la direction de la responsabilité. Tu as autorité, Maurice. Ben, tu es un mari responsable. Tu es un mari serviteur. Ton autorité n'est pas une autorité d'abord de grand chef, elle est une autorité de serviteur. Quelle différence! Christ est le chef de l'Église, l'Église lui est soumise. Le mari est le chef de la femme lui est soumise. Et c'est intéressant parce que dans Éphésiens 5, 22 et suivant, Paul donc introduit une raison qui s'appuie sur la mort de Jésus-Christ sur la croix. La chute a introduit des dérives, des distorsions, des dégâts dans l'ordre de la création. Nous l'avons vu, la domination de l'homme sur la femme. le machisme, l'exploitation sexuelle, tous les abus possibles et imaginables. Et puis voilà que se dresse un jour la croix du calvaire, n'est-ce pas? La croix entre ciel et terre. Et Christ, chef de l'Église, en faisant naître de nouveau tous ceux qui se confient en lui, va rétablir l'ordre créationnel, c'est-à-dire une juste autorité inspirée par Christ, baignant dans un véritable amour et une soumission volontaire, heureuse et respectueuse, puisqu'il est dit que la femme doit respecter son mari. Et c'est vrai que le mari, l'homme, est très sensible au respect de sa femme. Ce qui fait le plus de mal à un homme, c'est le mépris de sa femme. Et j'aimerais que nous y réfléchissions. Il perd tous ses moyens. Ou alors il se révolte quand il est, lui, méprisé. Et souvent, la femme a tendance à le mépriser parce qu'elle est intuitive, parce que son identité que nous avons examinée ensemble lui fait souvent voir des choses que la logique de l'homme l'empêche de voir. Et il y a des moments où elle est tentée de mépriser son mari en lui disant « Mais comment? Mais c'est visible comme le nez au milieu de la figure, tu ne le vois pas !» Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux à vivre pour l'homme. De la même manière que le mari va être tenté de s'aigrir contre sa femme. Nous l'avons vu dans Colossiens. Pourquoi? Mais tout simplement parce que lui, avec sa logique, parfois, voit des choses qui sont d'une clarté. Et il voit sa femme qui, avec son intuition, fonce tout droit dans le mur, tellement elle considère son intuition importante. Et lui, il est tenté de s'aigrir contre elle, quand elle poursuit continuellement son but, avec obstination. Parce que la femme est capable d'être très obstinée. Et c'est ça ce qui aigrit. Quand le temps passe et que vous avez beau, coucou, faire des signes ici, là, fais attention. Non, je continue mon chemin. Mon flair me guide dans la bonne direction. Puis pouf! Alors là, ça aigrit. Chacun va être la victime, n'est-ce pas? Et l'agresseur? En fonction de son identité. Et nous devons vraiment faire attention dans ce domaine. Alors, je résume ici, en ce qui concerne cette soumission, en disant, premièrement, la soumission de la femme n'atteint pas sa dignité. La femme est respectée, aimée, valorisée, protégée par son mari, qui réalise qu'au regard de Dieu, autorité égale responsabilité. Deuxièmement, la soumission n'atteint pas l'égalité de nature, de valeur devant Dieu. Elle ne fait pas de la femme l'inférieur de l'homme, mais le complément indispensable de l'homme à cause de sa différence. Nous l'avons vu dans Genèse 2,18, une aide qui soit son vis-à-vis. Égalité de dignité, mais rôle différent. Troisièmement, et c'est important, il y a eu une question sur ce thème, la soumission de la femme n'est pas obéissance inconditionnelle comme celle d'un enfant à ses parents. Le seul passage où la femme obéit à son mari, c'est 1 Pierre 3, 5, 6, que nous avons lu, je crois, à deux reprises, où il est question de Sarah qui obéit à Abraham et qui l'appelle son Seigneur. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, dans Genèse, chatouiller un petit peu la sensibilité de Sarah, vous vous rendez compte que son obéissance n'était pas une obéissance servile, inconditionnelle, comme le doit être celle d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Sarah, manifestement, avait une sacrée personnalité. Je n'en dis pas plus, mais étudiez les textes. La conception d'un mari qui ordonne et d'une femme qui obéit est tout à fait étrangère au Nouveau Testament. La soumission est un don volontaire de soi-même, puisqu'il est dit « comme au Seigneur ». Elle est une réponse de l'amour à l'amour. Et enfin, et nous avons beaucoup insisté, nous avions préparé le chemin, par Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, vous femmes chacune à son mari. Voilà ce que dit le texte grec. Hein. La soumission de la femme est une application particulière d'un devoir général du disciple de Jésus-Christ. La soumission de la femme n'interdit donc pas au mari de se soumettre à sa femme quand cela est exigible, n'est-ce pas, quand cela est nécessaire, de la servir comme Christ dans Jean 13 qui, amenant son amour au plus haut point pour ses disciples, va revêtir la dignité de l'esclave, va boutonner sur lui le tablier de l'esclave pour se mettre sous ses disciples et les servir. Et cela doit vraiment nous faire réfléchir. Vous voyez, j'ai essayé autant que faire se peut, et sans développer tous les aspects, mais en voyant certains points essentiels, de frapper à la porte des cœurs masculins et aussi des cœurs féminins. Chacun d'entre nous, nous avons notre part, notre bout de chemin à faire. L'homme, pour vraiment jouer son rôle de présidence, avec tout ce qu'il signifie comme difficulté. Parce que dans un foyer, un mari qui se sent vraiment président-directeur général, c'est aussi celui qui, dans des situations parfois extrêmement difficiles, va devoir, après concertation, dialogue, communication, va parfois devoir trancher en dernier ressort. Et ça, c'est difficile. Parce que ça signifie qu'il accepte d'endosser la responsabilité de sa décision finale si, dans certaines situations, il doit trancher. Et qu'il endossera donc les conséquences s'il s'avérait que sa décision soit mauvaise. Et c'est certainement là une des raisons de la démission de beaucoup d'hommes. Parce qu'on sait que quand on exerce vraiment une autorité déléguée, on accepte d'endosser certaines responsabilités qui peuvent faire très mal lorsqu'on doit faire certains choix. Alors ça, c'est le côté de l'homme. Et puis du côté de la femme, surtout à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui avec le féminisme, cette rébellion contre Dieu qui se traduit par toutes ces distorsions dans l'identité féminine et cette pénétration de cette mentalité dans l'Église, Dieu a un message pour la femme en lui disant simplement, c'est moi qui te le dis, c'est pas ton mari qui te le dit, c'est moi qui te le dis. Sois à ta place, sois soumise, comme au Seigneur, volontairement. Et cela évitera bien des drames. Cela évitera à bien des petits renards de devenir des gros renards. Parce que, disons-le, je suis persuadé qu'au fond de vous-même, vous êtes d'accord, que deux conflits ne se résolvent pas. Parce que l'homme reste drapé dans le manteau de son autoritarisme qui va le conduire à savoir très mal demander pardon. Je suis le chef.
j'ai combien de problèmes aujourd'hui du côté de la femme qui, pour toutes sortes d'autres raisons de passion, est poussée par le climat ambiant, va elle aussi de son côté tenir tête au lieu de céder pour céder. Alors, demain matin, sur cette base-là, une fois, disons, en tout cas, aussi bien que possible, évoqué, et je le souhaite, réglé à quelque part, quoique ces choses ne soient jamais totalement réglées, on est toujours en cours, hein. Mais qu'au moins nous ayons fait le point, que nous profitions de cette journée pour nous resituer, pour dire, bon, est-ce que je suis vraiment à ma place, où en suis-je? Est-ce que ma conception de l'autorité, ma conception de la soumission était juste jusqu'ici? En quoi est-ce que l'état de notre vie conjugale et familiale, et même ecclésiale, est-il lié à ma mauvaise approche? Pourquoi est-ce que nous ne réglons pas certains problèmes? Est-ce que ce n'est peut-être pas dû à cela? Voilà les questions que nous allons devoir nous poser aujourd'hui. Nous resituer pour pouvoir nous demander pardon, dire à Seigneur, mais Seigneur, pardon, j'ai mal compris la soumission, j'ai mal compris l'autorité. Et c'est vrai, Seigneur, que dans notre foyer, nous nous heurtons comme deux coqs, chacun résiste sur son terrain farouchement. Et puis, Seigneur, tu vois le fossé qui est en train de se creuser de plus en plus, et puis nos enfants qui le voient, etc. Alors ça, nous allons le voir demain matin. Comment, sur cette base-là, régler les conflits dans notre vie conjugale, et puis une fois de plus, au-delà, cela va nous aider, quel que soit notre statut, à approcher nos conflits inévitables dans bien des domaines. On apprend aussi même beaucoup par les conflits. Mais nous devons apprendre à gérer les conflits, à les régler, selon le Seigneur, dans le Seigneur, avec le Seigneur, par le triomphe du Seigneur, par le triomphe de l'un sur l'autre, parce que nous concevons trop souvent la vie conjugale comme la victoire de l'un sur l'autre, alors que le Seigneur doit avoir victoire sur tous les deux. Alors cela, ce sera notre étude de demain qui nous permettra d'ouvrir un dernier volet, toujours dans cette marche, dans la lumière, un beau volet. Je suis heureux que nous terminions par là, entre demain et en tout cas de toute manière samedi matin. Nous évoquerons, dans le cadre de la communication, donc le refus des murs, ou ces murs que l'on casse au fur et à mesure qu'ils montent, hein, nous verrons la question de la manière de cultiver l'amour pour qu'il ne s'éteigne pas, mais pour qu'il grandisse dans nos relations l'un avec l'autre. Le « je t'aime » qui parfois trop facilement s'estompe dans nos relations conjugales, tout comme il s'estompe lorsque le premier amour pour le Seigneur fait place aux habitudes, à la routine, aux ornières des traditions. Alors, ce sera à la fois samedi un regard sur le Seigneur, une invitation à grandir dans notre relation d'amour pour lui, et puis à ne pas banaliser nos relations conjugales au point qu'elles deviennent une routine dont on se passerait bien, n'est-ce pas? Nous allons prier. Oh, nous te bénissons. Combien nous te sommes reconnaissants. Je te suis reconnaissant pour ta parole. Seigneur, tu ne veux pas de notre part simplement la foi du charbonnier, mais tu nous expliques tant de choses dans ta parole. Si nous voulons les voir, c'est vrai que dans bien des domaines, tu nous demandes aussi une obéissance inconditionnelle, sans que nous comprenions, parce que nous sommes des petits-enfants sur cette terre. Mais merci de ce que, dans ce domaine du couple, de l'autorité, de la soumission, tu nous donnes, dans ta parole, à la fois des enseignements directs et des illustrations pour que nous comprenions bien les raisons et aussi la beauté de cette juste relation entre mari et femme. Seigneur, pardonne-moi, tu sais combien de fois, ou bien j'ai abusé de mon autorité, ou bien j'ai démissionné quand il ne le fallait pas. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai manqué à ma vocation, où j'ai mal compris. Pardonne les péchés du temps aussi de mon ignorance. Mais merci de ce que, dans cette relation avec toi, au fur et à mesure que nous avançons, dans notre intimité avec toi, dans la découverte des richesses de ta parole, dans la soumission à l'action du Saint-Esprit, Seigneur, merci pour les changements que tu opères. Merci pour les nouvelles orientations. Merci pour les réconciliations. Merci pour les murs qui tombent. Et je te remercie pour ma part, pour les murs qui sont tombés dans notre relation conjugale, pour les pardons qui ont pu se prononcer, pour les réconciliations qui se sont opérées, pour la meilleure compréhension au fur et à mesure de la vie ensemble. Seigneur, fais-le dans chacune de nos vies et au-delà du mariage, Seigneur. Tu sais combien tout ce que nous avons vu rejaillit sur nos relations avec nos enfants, sur nos relations avec l'Église locale, avec ceux qui nous entourent. Tu sais combien notre regard change lorsque nous comprenons mal. Alors visite-nous, Seigneur, les uns et les autres, personnellement, comme tu es capable de le faire, pour que nous puissions partir samedi en ayant fait vraiment un pas de plus, en profondeur, à dimension éternelle, non dans l'éphémère, mais avec une dimension d'éternité, que nous soyons plus près de toi et dans des relations plus justes. Oh, nous le réclamons de ta part et nous te bénissons par avance parce que nous voulons mettre notre confiance en toi et en ta parole. L'œuvre que tu as commencée en nous, tu veux la mener à son achèvement et nous préparer à te voir là-haut pour une éternité qui sera quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus-Christ, à qui nous voulons donner toute la gloire. Amen.